Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
La religion et ses représentants. Alors, parmi les personnages, on trouve Candide, naïf et insouciant. Il aime la belle Cunégonde. C'est d'ailleurs à cause d'elle que Candide se fait renvoyer du beau château de Thundertentronck. Cunégonde, c'est la fille du baron de Thundertentronck. Dans ce conte, Voltaire montre que les femmes, à l'image de Cunégonde, ne sont que des sources d'ennui. Nous verrons avec notre invité si c'est la même chose de son côté. Pangloss, lui, avance des théories sur l'optimisme inspirées de Leibniz, qui finissent par devenir de plus en plus pathétiques vers la fin du récit. Martin, au contraire, le pessimiste opposé donc de Pangloss. Et enfin, Cacambo, il est un des rares personnages à donner des conseils utiles à Candide avec Martin. La leçon à tirer de ce conte, c'est qu'il vaut mieux cultiver son jardin et trouver sa propre harmonie plutôt que de s'occuper de celle du monde et de philosophie sur celle-ci. Et alors si cette histoire était transposée à notre époque? C'est ce que Laurent de Gauss s'est amusé à faire et c'est de cette version que nous allons pouvoir discuter avec l'auteur. Laurent de Gauss, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes professeur d'hématologie clinique à Paris 7, président de la Haute Autorité de Santé. Et vous allez d'ailleurs pouvoir nous en parler un peu plus hein, avant de débuter sur l'histoire de Candide. Et vous avez publié donc de nombreux articles sur la génétique, l'hématologie, qui sont donc votre domaine, la cancérologie et l'immunologie. Et vous êtes membre de l'Académie des sciences. Et donc, vous avez publié en 99, aux éditions du Pommier, Les nouvelles aventures de Candide ou la révolte de l'être. Alors, on l'aura bien compris, une version transposée à notre époque de Candide. Avant de vous poser la question de savoir comment vous est venue l'idée de retravailler le texte de Voltaire, quelques mots sur la Haute Autorité de Santé publique. Laurent de Gauss.
Oh, merci beaucoup. Oui, la Haute Autorité de Santé est une nouvelle administration, ce qu'on appelle une autorité publique indépendante. Vous connaissez bien ceci, notamment pour l'audiovisuel, ça s'appelle le CSA. Et donc, pour la santé, il a été créé cette autorité indépendante pour améliorer la qualité des soins et des systèmes de santé. Donc, cela touche aussi bien les médicaments, les matériaux, que de voir les recommandations pour des bonnes pratiques, que aussi aller visiter tous les établissements de soins pour les certifier ou faire en sorte que les médecins donc améliorent leurs pratiques. Donc, c'est un vaste champ et c'est une autorité qui est indépendante, c'est-à-dire qu'elle se trouve entre le décideur qui est le ministre, le financeur qui est la caisse maladie, les professionnels, les industriels, les patients, et donc se trouve au milieu. Et plutôt que de dire qu'elle est indépendante, je dirais qu'elle est interdépendante.
Alors, on l'a bien compris, vous êtes médecin, votre domaine c'est la cancérologie, l'hématologie, l'immunologie. Alors, comment vous êtes venu à travailler sur le texte de Voltaire, Laurent de Gauss?
Ah, c'est toujours tous, nous avons tous un petit jardin que l'on aime cultiver, qui est à côté. Et donc, ce texte qui paraît assez rébarbatif, en tout cas qui paraît lointain lorsqu'on le lit à première vue, est en fait très actuel. Et il suffisait de changer quelques mots par page pour se retrouver dans des situations tout à fait, en fin de compte, actuelles. Et c'est pour ça que, faisant une page, deux pages, trois pages, en avançant ainsi, et en ayant fait un ou deux chapitres, je me suis permis de le proposer donc à Sophie Bancard, qui dirige le Pommier, et qui à l'époque était chez Flammarion. Et ça l'avait beaucoup intéressée, elle m'a dit « Allez jusqu'au bout !» Alors donc je vais jusqu'au bout, je fais le travail, mais entre-temps elle a changé, elle est passée de Flammarion, elle avait en fin de compte monté cette nouvelle maison d'édition qui s'appelle Le Pommier, que j'aime beaucoup, et donc nous avons édité chez Le Pommier, en fait, cette transposition, en changeant très peu de termes par page, une transposition de l'écrit de Voltaire. Et je crois que pour des personnes, notamment, parce qu'on fait lire le Candide, surtout chez des personnes assez jeunes, au lycée, et on le travaille en se disant « Mais ma foi, qu'est-ce que c'est que cette histoire ancienne, ça ne correspond à rien ?» En fait, en la lisant sous cette forme transposée, tout devient clair et tout, en fin de compte, paraît actuel.
Alors justement, pour donner tout de suite une idée de la transposition du texte, Pangloss, qui est un peu l'oracle hein, dans l'histoire de Candide, alors Pangloss, dans la version Voltaire, enseigne la métaphysico-théologo-cosmolo-nigologie, Voilà, c'est un peu long. Et alors pour vous, Pangloss enseigne la stratégie finance communication.
Oui, parce qu'on se retrouve non pas dans une baronnie, un baron usuel, mais on se retrouve donc dans une société qui a pignon sur rue et qui a donc un très bon stratège et qui s'occupe en même temps de la communication et des finances. Donc voilà, donc c'est pour essayer d'expliquer. Et c'est vrai que Pangloss, chez Voltaire, était l'homme qui réfléchissait et qui apportait des raisons, des causes aux effets. Alors que là, si on regarde un petit peu le nouveau Pangloss, parfois il trouve en fait compte des moyens de profit et des moyens d'acquérir encore plus d'argent quand il le faut.
Alors justement, je vais lire les premières lignes du texte de Voltaire et puis après je vais lire votre version, Laurent de Gauss. « Il y avait en Westphalie, dans le château de Monsieur le Baron de Thundertentronckh, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme, il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était fils de la sœur de Monsieur le Baron et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle ne vut jamais épouser parce qu'il n'avait pu trouver que 71 quartiers et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps. » Votre version, Laurent de Gauss, il y avait en Estopénie, dans la société Tédisté, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus civilisées. Sa physionomie annonçait son esprit, il avait le jugement assez droit, avec l'esprit assez simple, c'est je crois pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens cadres de la maison soupçonnaient qu'il était le fils de la sœur du PDG et d'un bon et honnête terrien du voisinage. Que cette demoiselle ne voulut jamais épouser parce qu'il n'était pas sorti d'une grande école et que sa famille ne faisait pas partie de la société en vue. Donc en fait, on l'a bien compris, le baron de Thundertentronckh s'est transformé en une firme, une grande compagnie, renommée à l'occasion Tédisté.
Exactement. Donc c'était un moyen, parce que tout d'un tronc, ça fait Tédisté, en fait, quand en transposant.
Alors l'Estopénie, comment vous est venu de transposer la Westphalie à l'Estopénie?
Alors c'est peut-être, bon, c'est parce que Ouest, ça se transforme en Est, et Phalie en pénis.
Donc Estopénie. Donc, voyez,
voilà, Estopénie.
Alors, un peu plus loin dans le texte, Cunégonde s'évanouit. Elle est souffletée par Madame la Baronne dès qu'elle fut revenue à elle-même. C'est au moment où, en fait, elle est prise en flagrant délit avec Candide. Et dans votre histoire, à vous, Cunégonde s'évanouit également. Et au lieu d'être souffletée, elle, de son côté, avec votre version, elle est envoyée pour un mois en formation à l'étranger et dès qu'elle fut revenue à elle-même. Vous l'envoyez, par exemple, en Angleterre ou ailleurs.
Exactement,
pour apprendre une langue.
C'est un des moyens, comme on dit aujourd'hui, de pouvoir arrêter une jeune fille qui a fait un peu un débordement.
Alors, quand on avance dans le texte, bien sûr, Candide voyage un peu partout dans le monde. Alors, la version Voltaire, c'est normal, il utilise le bateau. Alors, pour vous, du coup, il utilise l'avion.
Oui, c'est le moyen de transport actuel. Hein.
Et donc, les maladies, la vérole, pour Voltaire, se transforme en sida de notre côté.
Oui, regardez, ça c'est vraiment assez étonnant, parce que on est à 2 siècles et demi plus tard, il y avait ce problème de la syphilis, qui était d'ailleurs importée d'Amérique, et qui touchait toute une société assez évoluée, et on peut reprendre exactement le texte avec la transposition actuelle sur le sida, qui est venu d'une certaine société évoluée aussi et qui a, en fait, compte, on peut suivre cette généalogie de la maladie, comme le fait Voltaire, de façon tout à fait comparable avec ce qui se passe aujourd'hui. Ça, il y a beaucoup de sujets pour lesquels il est possible de retrouver une vraie similarité. Et je crois qu'entre la syphilis et le sida, c'était la même panique et la même difficulté qu'il y avait, et la même le même moyen de contamination, qui est aussi sexuel, et la même, en fin de compte, généalogie du germe, qui était un... Donc, on connaît bien l'agent de la syphilis, et celui du sida, c'est un virus qu'on connaît aujourd'hui. Mais vous voyez qu'on suit, exactement c'est les mêmes réactions de société, en fin de compte, et les mêmes populations qui sont touchées.
Alors, Voltaire, dans son livre, dans son conte philosophique, a voulu ridiculiser en quelque sorte ceux qui ne considèrent pas avec sérieux et respect le problème du mal. Est-ce qu'il en est de même avec votre transposition? Est-ce que vous, pareil, vous pointez du doigt les gens qui pensent que tout va bien dans le meilleur des mondes ?
Alors, je crois que c'était plutôt dans un esprit entre ce que voulait démontrer Voltaire avec son pangloss qui était rationnel, tout avait une cause et tout avait une conséquence. Cette rationalité, aujourd'hui, elle est acceptée. Mais on a d'autres sujets sur lesquels nous sommes en cours d'évolution, c'est-à-dire nos idéologies, qu'elles soient libérales ou qu'elles soient au contraire égalitaires, on voit qu'elles ont fait leur fin actuellement, quand elles ne sont que seules. Et c'est un petit peu cela, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui plutôt une recherche sur ce qui est de l'être et ce qui est de l'avoir. Et c'est peut-être un peu là où j'ai essayé de pousser ce livre, ce qu'on appelle la révolte de l'être. Candide, cherchant toujours à avoir plus de valeur de l'être, et il tombe dans un monde où on ne parle que de l'avoir. Et c'est comme ça qu'il y a toujours des obstacles et des difficultés. Du temps de Voltaire, c'était plutôt un monde qui était dû au hasard, et on ne sait pas très bien pourquoi, et Pangloss essayait d'expliquer qu'il y a toujours des raisons et des conséquences, et Candide essayait d'appliquer, mais vous voyez, est-ce qu'il y a vraiment une raison, est-ce qu'il y a vraiment une conséquence, si je me cogne contre quelque chose, et il n'y a pas de cause, il n'y a pas de conséquence, et Pangloss lui disait, mais si c'est passé ça, c'est parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça, donc s'il y a eu le tremblement de terre à Lisbonne, c'est parce qu'il y a eu ça, donc... du temps de Voltaire, c'était rechercher, démontrer qu'il y avait des causes et des conséquences et que le monde était en fait compte une horloge et que c'était bien en fait compte cela qu'il voulait démontrer. Aujourd'hui, je crois qu'il est plutôt, ceci est admis, mais c'est plutôt de démontrer.
Canal Académie.
Après, c'est assez étonnant, les Jésuits du Paraguay, ils appellent ça les prêtres. C'est dans le chapitre 14, je vois à l'instant, mais j'ai vu son nom du temps. Les padres de. Qui étaient de. Comment ils s'appellent ça déjà les...
Il appelle ça les. Ah oui, moi j'ai vu une version à vous, alors avec les caméramans, donc c'est pas ça!
Mais c'est amusant tout ça.
Ah bah attendez, si c'est chapitre 14, j'ai dû le noter.
Il appelait ça les prêtres.
C'est bête ça. Comment on fit un bel auto-da-fé, c'est pas ça ?
Non, non, c'est après. Ça c'était amusant. C'était aussi c'est entre les juifs et, et l'islam. Mais ça, c'est vrai que c'était assez étonnant. Il ne faut pas trop en parler si ça passe partout. Mais c'est amusant ça. C'est compte. Tout est amusant. Il est pas. Attendez, je vais retrouver ça. Il s'appelait. Enfin, tu vois, c'est les padres, mais du Paraná, du Paraguay. Enfin, mais dans le 14e, c'est toute l'histoire du Paraguay.
Mais je vois pas le nom en fait, à Paraguay.
Non, c'est les padres, il appelle les padres. Mais c'est avant, il je sais rien qu'il parlait de. C'est pas grave, c'est. Ça m'amuserait de parler de cela. Parce qu'il y a une vraie transposition, je trouve, entre ce qui s'est passé il y a deux. Pas de compte, deux siècles et demi. Et alors, à l'époque. L'Église s'est mise en accord avec l'État le plus fort, qui était l'Espagne, pour pouvoir les éliminer. Et comme pour la théologie de la libération, l'Église s'est mise en accord avec les Américains pour pouvoir les éliminer. Donc c'est assez étonnant de trouver que la même chose.
Bon, bah, écoutez, on va repartir. Et puis... Vous voulez peut-être un petit marque-page?
Non. J'ai mis là.
Vous avez pris un petit trombone. Voilà, alors, j'avais dit que je voulais commencer. Voilà, ok. Suite de notre émission Au fil des pages, toujours en compagnie de Laurent Degausse, avec qui nous discutons des nouvelles aventures de Candide, ou La révolte de l'être, un livre publié en 1999 aux éditions du Pommier, où Laurent Degausse transpose l'histoire de Candide à notre histoire contemporaine. Alors, Laurent Degausse, on dit voilà, que Voltaire, en fait, c'est Candide, qu'il s'est lui-même, en fait, imaginé le personnage de cette histoire. Alors, est-ce que vous, dans cette histoire transposée de Candide, vous vivez, est-ce que c'est votre œil de Candide à notre époque ?
Je dirais qu'au début, c'était plutôt un amusement de transférer ou de transformer ce texte de Voltaire. En changeant quelques mots pour le rendre actuel avec les grands problèmes actuels que nous voyons tous les jours. Et puis petit à petit, en étant dans ce jeu, et notamment lorsqu'on le voit dans Eldorado où tout doit être bien en principe, c'est là où peut-être on se lâche un peu. Et je vois Voltaire disait « Mais pourquoi y a-t-il deux grandes religions qui se battent ? Il n'y a qu'un seul Dieu, etc. » Bon, il raconte. Et là, j'ai essayé de montrer pourquoi a-t-on, en fait, compte, perdu toutes ces valeurs de l'être et qu'on est dans des lois qui nous restreignent. Si on avait un vrai discernement, si on était, on devrait avoir tous des lois intérieures qui suffiraient par rapport aux lois, en fait, compte, faites par la société. Donc, c'est vrai que petit à petit, on se dit, tiens, on peut faire passer des messages lorsqu'on est dans ce texte. Et bon, la transposition, comme elle ne peut pas être identique au siècle actuel, en tout cas, on peut essayer de faire passer des messages pour ce siècle par rapport à ce qui se passait du temps de Voltaire.
Donc vous faites passer vos messages ?
Par moment.
Alors justement, vous allez me dire si c'est votre message. Au chapitre 23, il y a une référence qui est faite, une petite guéguerre entre la France et l'Angleterre, notamment en faisant référence au tunnel sous la Manche. Alors bien sûr, Voltaire n'en parle pas, hein. Lui dans sa version, et parle du Canada. Alors dans sa version à lui, il écrit « Vous savez que ces deux nations sont en guerre pour quelques arpents de neige vers le Canada et qu'elles dépensent pour cette belle guerre beaucoup plus que tout le Canada ne vaut. » Alors, vous, de votre côté, c'est un peu plus long, hein, j'ai peut-être un peu écourté la version Voltaire, mais pour plus peut-être m'amuser de votre version à vous. Alors, ils, au pluriel, donc c'est la France et l'Angleterre, ils se battent pour savoir qui dominera l'Europe, à tel point que la France ne voulait pas les considérer comme européens, tout en travaillant à la construction d'un tunnel sous la Manche, les obligeant à se relier au continent. Ces deux nations ont dépensé pour cette belle œuvre plus qu'une guerre. La France dépêcha sous ce tunnel un TGV pour montrer sa supériorité technologique et l'Angleterre fit arriver le train à la gare de Waterloo pour rappeler sa victoire sur les Français. Alors là, par exemple, est-ce que c'est votre vision des choses, Laurent Degausse, ou est-ce que c'est juste une transposition par pur hasard de votre part ?
Il n'y a pas de hasard, mais en tout cas, vous vous rendez bien compte qu'il y a toujours cette guerre des frères. En tout cas, parce qu'en fait, contre l'Angleterre et la France sont une origine commune, et donc on peut se dire frère, mais il y a une compétition dans le monde, et elle existait du temps de Voltaire au niveau du Canada, elle existe aujourd'hui, et donc même sur le territoire continental de l'Europe, et donc on peut voir qu'il y a là, en fait, le tunnel sous la Manche, je pense, a bien cristallisé, en fait, compte. La difficulté que l'on a à être ensemble. Et pour les Anglais, ça a été très pénible de voir un tunnel qui reliait, par contre, la Grande-Bretagne à la Bretagne. Et c'est inversement, les Français étaient tout heureux de mettre ce tunnel. Et le faire arriver à Waterloo, je crois aussi que c'est symbolique.
Alors justement, avançons peut-être un peu dans les chapitres. Au chapitre 26, un des derniers chapitres de Candide, il y a l'intitulé de ce chapitre qui s'appelle « D'un souper que Candide et Martin firent avec six étrangers et qui ils étaient ». Et alors vous, votre titre est un peu modifié, bien sûr. Il est intitulé « D'un dîner que Candide et Martin firent avec sept étrangers ». je vais la refaire, d'un dîner que Candide et Martin firent avec cet étranger, entre parenthèses le G7, et qui ils étaient. Et alors, dans ce chapitre-là, tous s'appellent président au lieu de seigneur, et vous êtes pareil amusés à transposer en fait tous ces seigneurs au président du G7, au gouvernant du G7.
Oui, c'était assez amusant parce que pour chacun, on lui faisait dire une phrase et qui correspond exactement en fait à ce qui se passe. Et donc, je crois que la transposition est étonnante entre ce qui était écrit par Voltaire et l'actuel. Parce que 6 étrangers et 7 étrangers, ça va. Et ils s'appelaient tous seigneurs, qu'on appelle président, c'est pas très loin. Et en fait, chacun avait cette particularité. Et vous pouvez lire, en fait, quand on retrouve les 7 pays.
Alors justement, vous me le disiez pendant cette pause, lors de cette émission, en préparant donc cette émission pendant cette pause, qu'il y a un élément qui justement montre bien qu'il y a un écho entre l'écrit de Voltaire et aujourd'hui, et ça se passe en Amérique latine.
Exactement. En Amérique latine, du temps de Voltaire, les jésuites avaient créé au Paraguay un territoire très égalitaire. Et d'ailleurs, vous vous souvenez peut-être du film Mission, qui exprime, en fait, quand ce territoire tenu par les jésuites. Et cet égalitarisme qui faisait que la terre appartenait à tous, tout était mis en commun, etc., gênait fortement à la fois la papauté et à la fois le pays le plus important et le plus conséquent, qui était l'Espagne. Et donc Voltaire montre bien la coalition entre l'Église et l'Espagne contre ces jésuites qui cherchaient un égalitarisme. Et bien regardez aujourd'hui ce qui se passait dans les mêmes régions d'Amérique du Sud, la théologie de la libération qui faisait aussi que des prêtres et des évêques étaient tout proches du peuple pour un grand égalitarisme, tout proche en fait du marxisme. Et en fait il y a eu aussi une coalition entre la papauté et l'Amérique, le pays le plus important, pour qu'il n'y ait pas en fait contre ces états égalitaristes marxistes soutenus par des prêtres de la théologie de la libération. Donc cette transposition est assez étonnante. Deux siècles et demi après, dans la même région, on retrouve la même attitude égalitariste et la même réaction du pays le plus important avec, en fait, contre l'Église catholique.
Alors, dans ce livre, on parle aussi bien de politique que des catastrophes naturelles, aussi bien aussi des prix littéraires, enfin, en tout cas dans votre version à vous, puisque à un moment donné, Candide arrive en France, à Paris, et dans votre version à vous, il se retrouve au milieu d'une assemblée qui doivent, je pense, délibérer pour un prix littéraire, alors que dans la version Voltaire, ils doivent, je pense...
C'est un dîner de personnes importantes et qui en fait, compte et mettent de grandes idées. Alors, j'ai hésité là, entre deux situations, faites bien de me le rappeler. Une situation de club d'influence, et de c'est si on en a aujourd'hui, des clubs qui ont certaines influences, ou de faire un prix littéraire. Et c'est en discutant justement avec la maison d'édition, ils me disent « Oh, ce serait beaucoup mieux un prix littéraire », parce qu'ils connaissaient bien la situation. Et donc, j'ai fait plutôt une situation proche d'un prix littéraire, et en se rendant compte des réactions de chacun autour de la table au sujet de, enfin, gros, d'un roman qu'ils auraient pu lire.
Du coup, je suis perdue. Parce que, oui. Merci, Ulrich. Si. Non, mais c'est pas ça. C'est simplement un hasard, en fait. Voilà. Justement, si vous me le permettez, je vais lire ce que vous avez écrit au sujet de ce prix littéraire. Je vais peut-être commencer par la version de Voltaire, si vous me le permettez, et puis après j'enchaînerai avec votre version à vous. Candide, qui était naturellement curieux, se laissa mener chez la dame au fond du faubourg Saint-Honoré. On y était occupé d'un pharaon, 12 tristes pontes tenaient chacun en main un petit livre de cartes, registre cornu de leurs infortunes. Un profond silence régnait, la pâleur était sur le front des pontes, l'inquiétude sur celui du banquier, et la dame du logis, assise auprès de ce banquier impitoyable, remarquait avec des yeux de lynx tous les parolis, tous les sept éleva, de campagne, dont chaque joueur cornait ses cartes. Dans votre version à vous, en faisant référence au prix littéraire, Candide, qui était naturellement curieux, se laissa mener dans un restaurant au fond d'une cour sombre. On y était occupé d'un prix littéraire. 12 tristes pontes tenaient chacun en main un livre et parlaient de leurs infortunes. Une dame, près du président, remarquait avec des yeux de lynx tous les jeux d'échange d'informations, de passe-droits, de possibles marchés et de nouvelles tractations. C'est donc votre vision des prix littéraires,
Laurent Lecoultre. Vous voyez bien, il faut bien essayer de trouver des situations similaires, en tout cas presque similaires. Si vous voulez, il y a beaucoup de sujets. Moi, je reviendrai sur le fait que ce qui se passait il y a 250 ans et aujourd'hui se rapproche. Et il y a beaucoup de sujets. On voit notamment les guerres sont à peu près similaires. Les maladies sont similaires. Les catastrophes naturelles sont similaires. Et les hommes sont similaires. C'est surtout ça, c'est l'attitude humaine qui te fait la... Et cette transposition fait que ce livre devient tout de suite très compréhensible et en tout cas, on a envie de le lire. C'est-à-dire que quand on lit un chapitre transposé, on se dit, mais qu'a pu dire Voltaire? Et quand on voit Voltaire, en fait, quand il a dit la même chose. Donc, c'est là où je crois qu'on est attiré par la lecture de Voltaire si on essaie de lui donner un peu d'actualité. Et c'est ça que j'ai voulu faire et j'étais moi-même très attiré par cette lecture de Voltaire.
Alors justement, ce livre a été publié en 1999, depuis vous avez eu certainement quelques retours. Est-ce que ce sont des retours justement de jeunes étudiants, de lycéens qui vous disent ben justement, grâce à votre transposition, non seulement je me suis bien amusée, mais en même temps j'ai mieux compris ce que voulait dire Voltaire ?
Exactement, c'est ça. Alors, je ne sais pas si on comprend mieux Voltaire, mais en tout cas on a envie de le lire. Parce que le message que donne Voltaire est un message de son temps. Le message qui est transposé est un message plutôt de notre temps. Mais on a envie de le lire en se disant « mais ce n'est pas possible qu'il soit aussi actuel. C'est pas possible qu'il ait trouvé des situations qui soient similaires aux nôtres. C'est pas possible qu'il puisse en parler de façon si franche et amusante. C'est des réactions qu'on a eues, c'est des gens assez jeunes et qui ne pensaient pas que dans Voltaire, il puisse y avoir sujet à réflexion actuel. »
Est-ce que justement vous avez eu à l'inverse des réactions épidermiques de la part de professeurs ou du corps enseignant ?
Non, c'est là. Vous savez que rarement les gens vous écrivent pour vous réprimander. Ils vous écrivent souvent plutôt pour vous dire j'étais très heureux de pouvoir lire ceci. Donc je ne sais pas. Il y a certainement eu beaucoup de personnes qui se sont dit me voilà du plagiat. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi a-t-on écrit ainsi un livre qui était sacré et qu'on ne doit pas toucher ? Donc ça, je comprends que certaines personnes puissent être heurtées par rapport à cette transformation. Mais le but n'était pas du tout de faire du plagiat, le but était d'avoir envie de lire Voltaire, puisque tout ce qui a été dit, toutes ces situations, sont des situations humaines et qui se répéteront encore des siècles et des siècles.
Est-ce que vous avez envie, est-ce que vous avez en projet l'écriture de nouvelles transpositions de ce type ?
Non, j'ai écrit beaucoup plutôt de façon scientifique, à la fois pour savoir comment une cellule maligne, une cellule cancéreuse se transforme en cellule normale ou autre chose. Il y a d'autres sujets qui m'intéressent actuellement, mais pas de transposition pour l'instant comme celle-ci. Je crois que c'était un essai, c'était très agréable. C'était
un essai réussi ?
Je ne sais pas, c'est vous qui le dites. Mais en tout cas, c'est un essai qui était très agréable et qui permet, je crois, pour certains qui sont récalcitrants vis-à-vis de lectures obligées, quelquefois, comme le Candide de Voltaire durant la scolarité, en fait, permettre de pouvoir le lire de façon agréable et même avoir envie de lire le texte lui-même ensuite.
Eh bien, j'espère en tout cas que ces petits moments que j'ai pu citer donneront envie à nos auditeurs d'en savoir plus et de lire votre livre. Je vous remercie, Laurent de Gauss, d'être venu nous voir. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes membre de l'Académie des sciences, hématologue, professeur d'hématologie clinique à Paris 7 et puis également président de la Haute Autorité de Santé, dont vous nous avez donné quelques mots en débutant cette émission. Et je précise pour nos auditeurs qu'une autre émission est téléchargeable sur le site de Canal Académie, et cette fois-ci dédiée à Voltaire, avec son biographe, Monsieur Miliza, une émission qui était donc préparée et diffusée grâce à Canal Académie avec Christophe Diques, mon confrère journaliste. Merci Laurent de Gauss, et puis certainement une prochaine fois pour une nouvelle émission, mais peut-être plus à ce moment-là sur les leucémies ou les cellules cancéreuses.
Merci Elodie.
Merci.